Bonsoir. La vie humaine est sacrée, c'est l'intitulé de la déclaration des évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCON, sigle publié hier mercredi en réaction au drame survenu à la prison centrale de Makala. Tout en rappelant un certain nombre des drames qui ont coûté la vie à plusieurs Congolais en l'espace d'une année, la CENCO indique qu'il est déplorable de devoir compter chaque jour des morts des suites des attaques et bavures des forces de l'ordre et des sécurités d'une part et de la négligence des services de l'État de l'autre. Les prélats catholiques recommandent à la justice d'engager résolument des poursuites à l'endroit des auteurs d'actes de violation de droits de l'homme à travers le pays. Ils invitent également les uns et les autres à promouvoir la culture de la non-violence et le respect de la vie humaine. La vie humaine, voilà. Quelle lecture faire de la déclaration de la CENCO? Participe au débat de ce soir, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCON sigle. Monseigneur Cholet, bonsoir.
Bonsoir.
Alphonse Tambwe, avocat et conseiller du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Maître Tambwe, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Aussi avec nous dans cette émission, le professeur Alphonse Maindo, professeur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani, UNIKIS en sigle. Professeur Maindo, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir, monseigneur. Bonsoir, monsieur le conseiller.
À Goma, dans la province du Nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur le compte X de Radio Okapi, ainsi que la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
La Conférence épiscopale nationale du Congo a fermement condamné les récents événements survenus à la prison centrale de Makala, Kinshasa, où plus d'une centaine de personnes ont trouvé la mort, dont certaines par balles, lors d'une tentative d'évasion survenue dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Dans une déclaration rendue publique hier, les évêques congolais ont dénoncé la banalisation de la vie humaine en RDC et ont appelé à une justice ferme et équitable pour les victimes. On écoute le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, au micro de Grâce Amzati.
C'est naturellement la désapprobation, l'indignation, la condamnation, parce que c'est la énième fois en peu de temps qu'on compte autant de morts qu'on pouvait éviter si on avait sens de responsabilité à plusieurs niveaux. La CENCO n'a pas fait une enquête minutieuse, mais il y a des choses qui sautent aux yeux. D'abord, le nombre de morts, on n'a pas voulu être précis parce que c'est discuté, mais ce qui est évident, c'est on parle en termes de centaines. Et qui dit mort par balle, dit la responsabilité dans ce cadre-là de forces des armées, de forces de sécurité. Il y a une autre évidence, c'est le fait que les prisons sont hyper surpeuplées. Donc, beaucoup sont morts d'étouffement, c'est à cause de ce sous-peuplement qui devrait déjà interpeller les responsables depuis longtemps.
C'était l'abbé Donatien Cholet qui est d'ailleurs avec nous dans ce débat. Bonsoir, Monseigneur Donatien Cholet. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, en sigle. Dans votre déclaration déclaration rendue publique hier, les évêques congolais dénoncent la banalisation de la vie humaine en République démocratique du Congo. Sur base de quoi la CENCO le dit?
Madame, c'est une évidence maintenant, c'est la triste réalité. Le début du constat des évêques, c'était le rappel de tout ce qu'on a vécu ces dernières années, encore que ce n'était que quelques références pour ne pas tout citer. Depuis plus ou moins une année, ils se sont arrêtés là seulement. On a compté autant de morts causées par des bavures de forces de sécurité et de forces armées, ou la négligence des services de l'État. C'est la triste réalité. Aucun Congolais ne peut contester ça. Et ça ne peut pas continuer comme ça.
Alors, cette déclaration, c'était en réaction du drame survenu à la prison centrale des Matala. Les autorités congolaises parlent de tentative d'évasion. Face à cette situation, Monseigneur Donatien Cholet, quelle aurait été, selon vous, l'attitude que devrait adopter le gouvernement?
Tout sauf tirer sur les gens, madame. Tout sauf tirer sur les gens, c'est normalement pour être affecté dans une prison, on doit avoir la formation requise. Ça, c'est aussi là le problème. Et quand on touche les armes, il faut une formation à cela. Et ce n'est pas l'Église d'apprendre à un militaire qui garde la prison comment s'y prendre sans tuer les gens.
Dans votre déclaration, vous dites qu'il est plus que déplorable de devoir tenter chaque jour des suites des attaques et des bavures des forces de l'ordre et des sécurités d'une part et de la négligence des services de l'État d'autre part. Est-ce que c'est une façon d'accuser l'État de tuer son peuple?
Bon, considérez ça comme une accusation, mais c'est un constat. Dans le titre de ce paragraphe, c'est un constat. Donc c'est ce que nous observons, ce qui arrive, les morts qu'on enregistre sur le fleuve là, mais on ne peut pas le comprendre tant quand il y a des marins, les morts qu'on enregistre sur nos routes, on ne peut pas le comprendre quand il y a autant de roulages, les gens qui acceptent l'argent pour tirer n'importe quoi. Voilà, donc il y a autant de choses vécues au quotidien contre la grande église de l'État. Pour parler d'accusation, nous ne sommes pas dans un tribunal.
On ne vous capte pas très bien, Monseigneur Cholet. Est-ce que vous pouvez bouger pour améliorer la qualité de la ligne?
Oui, je disais. C'est que nous ne sommes pas dans un tribunal, mais nous dénonçons comme Église, les évêques dénoncent comme pasteurs. Ce qu'ils observent, il y a des morts qu'on aurait dû éviter si le service de l'État était les agents commis au service de l'État pour garantir la sécurité était sérieux. Sur le fleuve, sur les routes, ce sont des morts qui se justifie entre autres par le fait que ceux qui ont la responsabilité de veiller sur la sécurité sont négligents. Mais il y a aussi, pour parler de forces armées, de forces de sécurité, des morts qu'on pouvait éviter. Et si vous avez suivi vous-même, juste un exemple, quand on traquait les rebelles qui ont pris d'assaut le palais de la Nation, des gens qui étaient en train de fuir dans l'eau, qui n'avait comme salut que la fuite et la nage. Et on voyait tirer sur ces gens-là, et là, il y a un problème. Et ce n'est pas la première fois, et ça continue. Vous voulez que les évêques se taisent?
Et vous condamnez...
quand même les brebis qui sont traités de cette façon.
Vous condamnez donc ces ignobles atteintes à la dignité de la personne humaine en RDC. Ça veut dire que les droits de l'homme en RDC ne sont pas respectés?
Absolument, c'est ça en fait le message.
Alors, on va continuer à parcourir votre déclaration, Monseigneur Donatien Cholet, en parcourant le territoire national pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous constatons que le peuple congolais est meurtri d'une plaie profonde. Partout, c'est la désolation. Est-ce que vous avez envoyé des enquêteurs à travers la RDC ou des gens à travers le pays pour faire ce constat, Monseigneur Tshiolé?
Il n'y a pas de meilleur enquêteur que les évêques eux-mêmes, qui chacun chez lui fait le tour de diocèses. Chaque fois que les évêques se rencontrent, le premier jour est consacré à la situation socio-pastorale. Chaque évêque raconte ce qu'il voit chez lui. Et c'est après avoir entendu tout le monde qu'on se rend compte que le problème est général. Donc on n'a pas envoyé des enquêteurs. Les évêques sont des gens au quotidien. Ils font les tours de pays dans le Congo pour les députés. Lui n'arrive pas, n'arrive que pour la propagande.
Et donc c'est... Allô, vous m'entendez?
Très bien, je vous entends.
Voilà, on a un petit souci avec votre ligne téléphonique, Monseigneur Tshiolé. Donc là, le peuple congolais est abandonné à lui-même, si on doit conclure, par rapport à ce ça constat donne, que vous avez fait.
Ça donne cette impression-là. Cette impression-là, c'est comme ça que les évêques, en vertu de leur charge pastorale, interpellent tout le monde, y compris les dirigeants, mais aussi la population, parce que la violence tend à devenir une culture. Si on ne fait pas attention, on risque d'atteindre le niveau de l'Haïti. Hein?
On vous garde encore dans cette émission. Je crois que la réalisation va vous appeler parce qu'on a un petit souci pour vous suivre, Monseigneur Donatien Tshiolé. Alphonse Ntamboué, vous êtes avocat et conseiller du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Vous avez lu la déclaration des évêques du Congo. Comment vous analysez d'abord ce qui est dit dans cette déclaration des évêques?
Merci Madame pour l'invitation, merci pour la question. Madame, la Constitution dit effectivement que la vie humaine est sacrée. Je l'ai dit aussi, Monseigneur Tshiolé le dit aussi. La vie est effectivement sacrée et la protection de la vie commence d'abord par soi-même. La vie nous est donnée et nous devons nous-mêmes, chacun, la protéger. La déclaration de la CENCO me laisse un tout petit peu perplexe. Perplexe pourquoi? Parce que c'est une déclaration faite sans enquête. Monseigneur, lorsqu'il a pris la parole, il a dit: ils n'ont pas fait une enquête minutieuse, mais moi j'ai dit ils n'ont pas du tout fait d'enquête. Plus tard, lorsque vous lui posez la question, il dit les premiers enquêteurs, ce sont les messeigneurs dans leur diocèse. Très bien, je veux bien le croire, mais je ne crois pas que à la prison de Makala il y a un diocèse là-bas. Où se situe le diocèse de Makala? Où est-ce que l'Église catholique va prêcher les prisonniers pour les resocialiser? Madame, c'est une question de responsabilité, il l'a dit, je le dis. Mais ce que j'ai peine à croire et admettre, c'est que chaque fois qu'il y a un drame, c'est alors que l'Église se réveille, au même moment que les autres, les politiciens, pour corser, pour embrayer. Et cette façon de faire les choses n'est pas bonne. Aucune fois l'Église, lorsqu'il y a un drame, a approché les autorités pour dire qu'est-ce qui s'est passé, descendre sur les lieux, recueillir les premiers éléments pour venir dire. Vous avez demandé à Monseigneur si c'était une accusation, il a dit c'est un constat. Au fait, on ne va pas connoter les choses, connoter, c'est-à-dire ajouter un sens. Je vais dénoter ce qu'il veut dire. L'État tue sa population. Et cette accusation est tout de même grave. Très grave pour l'Église. appelés à collaborer avec le pouvoir public. Madame, si me demandez, moi, de faire la lecture de ce qui s'est passé, voici ce que je vous dirai. La société congolaise est malade. Le premier chantier au Congo, c'est l'homme congolais. L'homme congolais, c'est le premier chantier qu'il faut reconstruire. Et pour construire l'homme congolais, trois structures entrent en ligne de compte. La première structure, c'est la famille cellule de base. C'est là que le Congolais enfant reçoit l'éducation de base de ses parents, de la famille. Deuxième structure, c'est l'école. À l'école, on l'éduque, on l'instruit, on lui donne l'érudition. C'est la deuxième structure pour construire l'homme congolais qui est aujourd'hui détruit. Troisième, c'est l'église. L'église est là pour moraliser la société. La société congolaise est en déliquescence. La société congolaise est à un niveau où les responsabilités sont partagées. Parce que s'il y a criminalité, les Kuluna tuent. La Senko n'a jamais fait une déclaration, mais les Kuluna tuent. À quel niveau intervient la responsabilité de l'Église ? L'Église ne contribue en rien pour éduquer, resocialiser sa société. L'Église s'érige en juge pour dire c'est tel, c'est tel. Monseigneur a dit ceci. Eux qui ont, n'a pas dit, nous qui avons. Parce que la famille a démissionné, l'école a démissionné, l'Église mêmement.
L'Église... Mais qui doit protéger la population congolaise, monsieur le conseiller?
Si vous m'avez bien suivi, la famille... L'école par l'éducation, l'église par la moralité.
Je parle de la protection.
Je vous réponds. Parce que l'homme qui est bien éduqué, qui est bien formé, bien instruit, c'est se protéger à partir de tous les éléments fondamentaux qu'on a mis en lui. L'État, c'est de cette protection, vous voulez parler peut-être de la protection publique de l'État. Très bien. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Makala. Les prisonniers qui voulaient s'évader, c'était pour aller faire quoi à la cité? Pas une fête. Pour aller encore tuer. Les empêcher d'aller, de sortir de la prison, c'est la protection de la population. Pourquoi on ne peut pas inversement voir les choses? Pourquoi c'est toujours la même chose? Madame Tenet, allons un peu dans la Bible, voyageons.
Dans la déclaration des évêques catholiques, on ne parle pas... que du cas de Makala, il y a plusieurs cas. En une année, il y a eu plusieurs Congolais qui ont été assassinés par les forces de l'ordre et de sécurité, notamment dans le Kivu. C'est tous les jours qu'on tue les Congolais, plutôt pas tous les jours, mais c'est tous les jours que des Congolais meurent. Il y a eu des massacres à Kilwa, dans l'ancienne province du Katanga, Kwamout, voilà,
jouer l'État pour protéger
sa population.
Très bien. Je prends Ouazalendo, vous n'avez pas cité. Il y a eu massacre. On ne le dit pas.
Si, c'est dit.
Très bien.
Mais
voici ce qu'on ne dit pas. Les auteurs ont été jugés en flagrance, condamnés, acheminés à Kinshasa, emprisonnés à Makala. On ne le dit pas. Au fait, on n'est pas ici pour dédouaner les criminels. On n'est pas ici pour se dédouaner. Non. Lorsqu'il est avéré, l'enquête est en train d'être mené. Lorsqu'il est avéré que les coupables sont là, ils seront punis. Mais ce que moi je n'admets pas, c'est que l'Église catholique passe à la radio pour accuser l'État sans enquête, sans vérification. Et vous l'avez dit, je voulais vous donner un exemple. Dans la Bible, il y a des apôtres qui ont été emprisonnés. Personne d'entre eux n'a été évadé. Monseigneur le sait. Ils se seraient évadés à cette époque, ils auraient subi aussi le même sort. En fait, le Monseigneur pouvait également dire, s'évader de la prison, c'est pas bien, Mettre une église là-bas pour que chaque dimanche, le rôle de resocialisation des délinquants, des prévenus, ça appartient à tout le monde. Il ne faut pas laisser ça à quelqu'un, on est spectateur, pour juste venir dire. Aujourd'hui, moi, je peux dire.
Vous rejetez donc tout ce qui a été dit dans la déclaration
Madame,
des évêques.
Madame, je n'ai pas rejeté, j'ai reconnu même. Mais je rejette le constat de l'église. C'est un constat partisan. Je le rejette. En ce qu'il dit, le gouvernement est responsable de toutes ces tueries. Tenez un exemple. Seulement au Congo, ou même lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, la remontée capillaire, le fleuve monte, les eaux du fleuve augmentent. On a accusé le gouvernement d'irresponsable. Alors que dans la Bible, je termine. Alors que dans la Bible, nous avons l'histoire des déluges. Les gens ont péri. Mais on a dit quoi, c'était une épuration,
c'était une justice divine.
On a dit que c'était une justice divine, une épuration. Mais au Congo, quand le fleuve est monté, les gouvernements étaient irresponsables. C'est ça aussi, cette façon de parler là, avec témérité, permettez-moi l'expression, qui n'est pas bonne. Ce n'est pas de la bienséance. Il faut un peu assainir le langage, attendre, scruter les faits, voir l'État comment il a fait pour parler peut-être après. Mais lorsque c'est des clergés, l'Église, qui doit aussi jouer un rôle dans tout ce que nous avons dans notre société, qui est toujours le premier à côté les autres, je me dis, en tout cas, mettons-nous ensemble, le mal est là, voyons ce que nous pouvons ensemble faire au lieu de nous jeter des pierres.
Professeur Alphonse Maïndo, professeur en sciences politiques de l'université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani. Nous sommes là dans la province de la Tchopo. Professeur, quelle lecture vous faites de la déclaration des évêques catholiques?
Bonsoir madame. Je pense que quand moi j'ai lu cette déclaration des évêques, j'y vois là, si vous voulez, une mission que l'Église a toujours joué, hein, c'est-à-dire d'annoncer les biens, de rendre le service aux gens, l'éducation, la santé, il y a même de la nourriture, l'habit que les Églises donnent aux gens. L'Église catholique le fait. Et dans beaucoup d'endroits, il y a que l'Église qui assure ce type d'émission que l'État n'arrive pas à faire. Mais en dehors de faire ça, l'Église a aussi, dans sa mission, de dénoncer les mal, pour interpeller les consciences, pour pouvoir améliorer. C'est comme ça que moi je comprends ça, c'est, si vous voulez, c'est dans un objectif de rappeler les uns et les autres, de les interpeller pour pouvoir assumer les responsabilités. Et ça rappelle bien, ça rentre aussi même dans les textes constitutionnels. L'article 16 de la Constitution est clair en la matière, elle dit que la personne humaine est sacrée. Et il ajoute, l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Donc, on voit là, si vous voulez, la loi fondamentale qui affirme très fort ce que l'Église vient de rappeler. Et l'article 61 ajoute, donc, en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85, 60 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Et le premier, c'est le droit à la vie. Donc, vous voyez, là, on est dans un rappel de fondamentaux de notre Constitution, qui, je le rappelle ici, a à peu près 25% des articles de notre Constitution se rapportent aux droits fondamentaux de l'homme. C'est dire l'importance que les constituants congolais accordent à cette question. Maintenant, nous sommes dans un contexte, il faut pas voir ça comme un fait isolé, et je me réjouis que les évêques l'aient rappelé, nous sommes dans un contexte de la banalisation de la violence. Et cela dure depuis de longues années. Nous sommes dans ce que Georges Moss appelle la brutalisation de la société. Donc la violence devient quelque chose de banal et tuer fait partie de la banalité, massacrer des gens, assassiner. Donc la mort, ou le meurtre
même la théâtralisation de la mise à mort pour marquer les esprits, pour soumettre les populations. Et moi, j'ai appelé ça système Corbillard. Donc, on est dans cette situation-là, et nous sommes comme dans un dans une espèce de nécropole. Et George Moss, il va plus loin, parce que lui, il a étudié la violence qui était faite durant la Première Guerre mondiale, et après, la société, comment il a étudié la société, comment ça se faisait, et il constate qu'il y a donc une violence politique très forte, les cultes du chef, les exécutions, les déportations et autres répressions. Et c'est ça que lui, il appelle la brutalisation des sociétés. Mais je pense que pour résoudre ce problème, et je pense qu'il faut, aller pour ça, il y a ce que Foucault appelle les droits de résistance. Et je pense que les évêques ne font qu'exprimer ces droits de résistance pour qu'on puisse briser ça et aller vers ce que John Owen appelle la démobilisation culturelle, pour qu'on puisse avoir une nouvelle culture, la culture de la vie, la culture de la paix. Et donc, déconstruire tout ce qu'on a mis en place pour que notre société devienne une société très violente, on tue les gens pour un oui, pour un non, et donc il faudrait qu'on change ça, et qu'on développe, c'est que on s'appuie sur les biopouvoirs, pour reprendre encore un concept qui est cher à Foucault. Voilà, si vous voulez, comment moi je peux interpréter ce qu'ont dit les évêques.
Emery Baloukou, depuis la ville de Goma au Nord Kivu, nous soutenons les arguments de Monseigneur de vouloir éclairer la lanterne de la population. Quelle est la suite réservée aux agents de l'ordre ayant tiré sur les prisonniers? Les droits des prisonniers n'existent plus en RDC. Une centaine de personnes tuées. Je proposerai aux autorités de faire un deuil national pour non seulement dire non aux différentes violences, mais aussi valoriser les victimes. Paul-Marie Katapindou, monsieur le conseiller, les prisons ont des aumôneries chapeautées par un aumônier qui a une idée sur la réalité sociale des maisons carcérales. Bien fait, Kambalé, merci pour le message que vous nous avez envoyé. Ce qui est arrivé, mais on ne pourrait pas laisser les prisonniers s'évader et se volatiliser comme ça. La loi congolaise est claire quant à ce. Voilà, vous êtes très très nombreux à nous envoyer des messages sur la page Facebook de Radio Kapi. Willy Luambo estime que l'État est réputé des missionnaires, la vie humaine est sacrée. Voilà, il estime que la vie, il pense que la vie humaine est sacrée, on devrait la respecter. Fortuna Kabuya demande aux évêques de proposer des pistes de solutions au gouvernement congolais pour éviter ce genre de situations. Alors on va à présent ouvrir notre standard pour prendre aussi ces auditeurs qui nous appellent de partout. On va se rendre dans la province, dans quelle province déjà? Dans la province de la Tchopo. Pour écouter cet auditeur.
C'est Paulin Sengangabo. Je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la. Les prélats catholiques doivent comprendre que la situation qui s'est passée à Makala n'était pas préméditée par les gouvernements, moins encore par les forces de l'ordre. Cela étant, la seule question que je pose aux prélats catholiques, face à une tentative d'évasion de plus de milliers de prisonniers, parmi lesquels il y a les ADF, 1-23 et d'autres, s'y trouvent, faudra-t-il utiliser quelle stratégie? Ce n'est pas seulement qu'en RDC qu'il y a des morts pareilles. Au Kenya, par exemple, la population marchait dans les rues jour et nuit contre le régime en place et il y a des morts d'hommes. Mais on n'a pas entendu les prélats catholiques résidant au Kenya de pouvoir condamner les forces de l'ordre. Seulement, il y a les prélats catholiques ainsi que les prélats catholiques fait quelque chose de l'Église et laisser la justice de faire son travail, car leur déclaration risque d'intoxiquer la population.
Monseigneur Donatien Cholet.
Merci, madame. D'abord, au conseiller. Je dis que C'est dommage, à l'entendre parler, c'est comme s'il veut consacrer un peu cette thèse de la banalisation de la vie. Quand nous parlons de la défaillance des services de l'État pour les noyades, lui nous ramène au déluge de la Bible, mais ce sont des choses différentes. Une embarcation en bois qui peut au maximum prendre 50 personnes, vous avez là 200 personnes, et il y a les services de l'État qui les laisse passer. Là, vous allez accuser la nature? Non, je crois qu'il y a une responsabilité réelle devant cela. Nous ne disons pas que c'était prémérité. Et mais nous ne pensons pas non plus, parce que lui veut nous faire croire que l'unique moyen pour arrêter cela, c'est de tirer sur eux. L'Église catholique s'est déjà prononcée contre la peine de mort. Ça, c'est aussi une version de la peine de mort. Et l'Église catholique reste cohérente. Et nous ne sommes pas là que pour critiquer, pour votre information. Dans la prison Macal, allez vous informer. Nous avons un aumônier là, un père au blanc qui s'appelle Abel. Il va vous dire où est-ce que l'Église catholique a contribué à mettre des climatiseurs dans la prison Macala. Par respect, justement, c'est parce que nous encourageons les gens à aller en prison, mais parce qu'ils sont des personnes qui ont une dignité humaine. C'est juste un exemple en passant. Donc, on ne peut pas que critiquer, mais on accompagne sans faire du bruit non plus. Personne n'est passé dans les médias pour dire voilà, c'est que. Il y a beaucoup de services que l'Église catholique, à travers les paroisses, à travers les congrégations, continue à rendre dans cette prison de Macala. Mais il y a des responsabilités, des choses qui ne peuvent être faites que par l'État. Donc, quand nous n'accusons pas l'État, nous accusons les agents de l'État, et peut-être par Metonymie, qui sont les militaires qui ont tué. Et ils en ont la responsabilité. Les agents qui ont été légers dans leurs responsabilités, ils en portent la responsabilité, et ça pose en fin de compte, comme c'est devenu une répétition, un problème de gouvernance. Donc, les évêques ne sont que dans leur mission prophétique, et ne sont pas là pour faire l'opposition ou pour condamner. Merci.
On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis Luena, dans la province du Olomami.
Charles Mpoudika, à Luena, province du Olomami. Les dénonciations et propositions des évêques sont totalement fondées. Toutefois, espérer des poursuites judiciaires à l'endroit des auteurs de ces actes décriés est hypothétique, dès lors que les forces de l'ordre et de sécurité sont toujours utilisées comme instrument de répression par les autorités. Donc, même les enquêtes ne donneront aucun résultat escompté.
Le conseiller.
Merci, madame. Personne ne banalise la vie humaine. Personne ne la banalise. J'ai donné ici l'exemple. Les eaux du fleuve montent lorsque nous avions eu les remontées capillaires. On a condamné et insulté l'État. C'est cette insulte facile envers l'État qui est aussi une forme d'entropie sociale. Lorsque Monseigneur dit « des embarcations coulent », la vie humaine est sacrée, mais le Congolais qui monte dans cette embarcation qui va couler, il n'a pas la notion de la sacralité de la vie.
Mais l'État ne lui propose pas mieux.
Madame,
l'État devait mettre à la disposition de la population des embarcations modernes.
La vie humaine, pour éviter cela. La vie humaine est sacrée.
La personne doit vendre sa marchandise, doit se battre pour vivre. L'État fait quoi?
Vous me donnez raison, parce que ce qui est arrivé à la prison de Macala, c'était de l'orthothanasie. Les gens se sont donné la mort. Dans l'obscurité, ils ont incendié la fumée, la pluie. Sachant qu'on pouvait rétablir l'électricité, ils ont brûlé la cabine. Et l'État est responsable? Non, un peu de bémol. Sinon, il n'y a pas de sacralité de vie. Qui doit enseigner la sacralité de la vie? C'est les évêques. Est-ce que le Congolais, tel qu'il vit, dans une entropie sociale, est-ce que l'évêque lui montre que il faut pas, lorsqu'il y a un drame, on vient, l'article, la constitution, la vie est sacrée, dans le sens connoté de condamner l'État. Non, la vie est sacrée, enseignez ça, prêchez ça à chaque Congolais, pour prendre sa vie au sérieux. Parce que si le prisonnier là savait que la vie était sacrée, il ne pouvait pas la mettre en danger.
le Congolais met sa vie en danger. Et on dit les forces de l'ordre doivent à la question de savoir. Qu'allez-vous faire, mon Seigneur, à la place de l'État? Il dit tout sauf tuer. Non, non, mon Seigneur. Dites-nous tout là, c'est quoi? Encore que la mission prophétique dont on nous rabâche les oreilles. Je n'arrive pas à comprendre. La mission prophétique, c'est d'accuser chaque fois l'État. L'Église est dans sa mission prophétique. Je comprends la mission prophétique comme ça. Lorsqu'il y a une responsabilité, même lorsque la police a bien fait, a protégé la majorité contre la minorité qui voulait s'évader, la mission prophétique, selon la CENCO, c'est de condamner l'État.
Lorsque, ça, c'est pas la mission. On a vu la CENCO féliciter le travail de la police ou des services de sécurité lorsque le travail est bien fait, monsieur le conseiller. Il y a des questions pour vous, hein, frère Patti, qui nous suit depuis Bandundu. Voilà, Patti Mahimba qui nous suit depuis Bandundu. Vous demande si vous voulez que l'Église catholique construise des prisons.
Non, l'Église catholique a raté de féliciter l'armée congolaise dans la nuit de lundi à dimanche. Parce que si ces bandits, nous les appelons en jargon, les prisonniers dangereux, s'étaient évadés, même Monseigneur ne serait pas allé dans sa paroisse pour dire la messe. Ça, l'Église catholique a manqué sa mission prophétique de féliciter le professionnalisme de l'armée. Tout ça pourquoi? Parce qu'on fait des analyses ex abrupto. Brutalement, les faits se font, les politiciens passent, bon, l'Église ne reste pas, on se réunit rapidement en visioconférence parce que Monseigneur est à Lubumbashi, rapidement là, et puis on pond une déclaration, on charge l'État. Et cette façon-là, cette mission prophétique peut être corrigée dans quelques-unes de ces lignes. C'est pas ça la mission prophétique. De tout le temps jeter la pierre à l'État, c'est la police, c'est les services, les embarcations défectueuses, la population abandonnée
donc pour
à
vous,
elle-même.
L'État n'a pas de responsabilité dans ce qui arrive.
L'État
congolais
a la responsabilité, la grande responsabilité. Le professeur l'a rappelé en lisant même la disposition de la Constitution. Mais je l'ai aussi rappelé, l'Église a une responsabilité. Le professeur a une responsabilité, l'école. La famille a une responsabilité. Nous avons une société en déliquescence, madame. Les Koulouna, là, la responsabilité à qui? À l'État. La famille a démissionné, l'école a démissionné, l'Église a démissionné. Nous sommes le pays où on prie beaucoup et où nous mourons. Nous mourons même en allant au stade de prier. Nous mourons. Mais il y a un problème. Soit on ne nous donne pas le bon évangile.
Monsieur le conseiller.
On ne nous donne pas le bon évangile. Valérien
Kisembe, qui nous suit depuis Kinkole, ici à Kinshasa, en RDC, la vie humaine n'a plus de sens. Les Congolais sont tués par ceux qui sont censés les protéger. Il y a urgence de mener des réformes au niveau des services de sécurité pour limiter les dégâts dans les jours à venir. Une question à monsieur le conseiller. Comment l'Église, la famille peut protéger la société et l'État à quel rôle sur la protection des civils? Très brièvement. Hein.
En amont.
Très brièvement, ouais.
Madame, c'est en amont. Si chaque famille éduque bien son enfant, zéro Koulouna. Si l'école donne la science et la conscience, nous n'aurons pas de détournement, de déniers de l'État, les vols, les banditismes. Si, en troisième lieu, il y a la moralité, et si l'État également fait bien son travail, il n'y aura pas tout ça. En un mot, c'est ça. C'est tout le monde.
On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle de Butembo, dans la province du Nord Kivu.
Mon père est Patrice de Butembo, au Nord Kivu. Les évêques de la CENCO ont totalement raison. Actuellement, nous vivons dans un pays avec des dirigeants et des stades du peuple. Ma crainte est que nous risquons de vivre une révolte populaire, malheureusement, à notre défaveur. Le seul message que je dois donner à nos autorités est que le monde nous observe avec des morts partout, malheureusement des morts causées par nos forces de défense.
Professeur Maïndo, le monde nous observe.
Oui, effectivement, quand vous lisez, quand vous circulez un peu dans d'autres pays, on est souvent pris à partie, on est souvent questionné par d'autres compatriotes, disons d'autres concitoyens du monde, hein, donc d'autres pays qui nous disent « Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi ?» Et pourquoi tout ça? Mais c'est parce que c'est depuis longtemps On a souvent tendance à l'oublier, c'est depuis longtemps qu'on parle de la faillite de l'État congolais. Depuis l'époque de Mobutu, il y a de nombreux écrits et les scientifiques congolais et étrangers ont beaucoup documenté sur cette faiblesse de l'État. Où nous assistons à une situation telle qu'on n'a que des poches de pouvoir public ici et là, mais qui ne sont pas, il n'y a pas un véritable maillage territorial. Et ce qui fait l'État, c'est le quadrillage du territoire, avec les forces de sécurité, avec la police, l'armée, l'administration, qui font le travail pour assurer l'ordre public et pour permettre aux gens de pouvoir fonctionner et de faire leur travail. Maintenant, je pense qu'il y a un problème de faillite de l'État, pas je pense, c'est établi qu'il y a un problème de faillite de l'État, il faut qu'on puisse refaire la réforme de l'État et réformer l'État pour qu'on puisse avoir des structures qui marchent. Et malheureusement, on a fait les économies sur là où on ne devrait pas le faire en termes de réforme. Et je suis aussi d'accord avec monsieur le conseiller pour dire que la première réforme qu'on doit faire pour la RDC, c'est la réforme de l'homme congolais. Et je l'ai déjà dit à maintes reprises dans différentes occasions, l'homme congolais doit être réformé, c'est le premier chantier. Après, on peut passer à d'autres chantiers. Maintenant, il y a, ceci dit, lorsque on a des militaires formés, des policiers formés, mais quand on ne leur donne pas les ressources nécessaires pour pouvoir faire le travail correctement, ils ne peuvent rien faire. Quand on déploie des militaires ou des policiers avec des armes létales, comment voulez-vous que ces gens puissent maintenir l'ordre avec des armes létales? Mais sinon que de donner la mort, voyez-vous? Donc c'est là on devrait équiper ces forces avec les moyens. Aujourd'hui, on dispose des moyens nécessaires pour mater les foules sans utiliser les armes létales. Mais malheureusement, on n'a pas équipé nos forces de sécurité qui étaient intervenues là-bas de ces moyens-là. Et donc, ils utilisent les moyens dont ils disposent. Et il y a donc un effort à faire sur ce plan-là. Et c'est ce qu'on voit aussi même dans la rue, lorsqu'il y a des manifestations, les policiers qu'on envoie, par exemple ici à Kisangani, et on les envoie avec des armes, des AK-47 et des munitions. Mais que voulez-vous qu'ils fassent, à part utiliser ces armes-là? Donc il y a un véritable travail à faire pour que l'État assume ses responsabilités. Il y a eu des évolutions dans les rôles de l'État dans les temps. Et quand vous regardez cette évolution, il y a des choses qu'on n'exigeait pas de l'État, qu'on exige aujourd'hui parce qu'on considère que c'est inadmissible. Par exemple, dans d'autres pays, on ne peut pas accepter qu'il y ait un chômage de masse. S'il y a un chômage de masse, aux États-Unis ou en France et tout ça, il y a des mobilisations contre les autorités publiques parce qu'elles ont failli. La collectivité doit créer les conditions pour que chacun ait du travail pour vivre. Si la collectivité n'arrive pas à le faire, elle doit leur donner aux gens les moyens pour vivre. Et c'est ce qu'on demande à notre État. L'État a des devoirs et les citoyens aussi ont des devoirs. Et donc, c'est ces choses-là qu'on essaie de rappeler. Et les rappeler ne veut pas dire qu'on condamne l'État. Le rappeler, ça veut dire tout simplement qu'on demande qu'il y ait responsabilité qui soit assumée. Les taxes et les impôts qu'on collecte, c'est pour faire ce travail-là. Et donc, il faut encourager le sens de responsabilité. Et je pense que les évêques, je soutiens ce qu'ils disent, puisqu'ils ne font que rappeler ce qui est déjà constitutionnel. Et vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il y a tentative d'évasion à la prison de Makala. On a déjà eu des précédents. Pourquoi on n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher que cela ne revienne encore? Voyez-vous, et par rapport à la gestion qu'on avait faite la fois passée, la dernière fois qu'il y avait eu ça, pourquoi on n'avait pas pris des mesures pour qu'on équipe la prison avec les ressources nécessaires et les équipements qu'il faut pour que s'il y a encore des tentatives d'évasion, qu'on puisse les mater de manière efficace, sans attenter à la vie, puisque la Constitution le garantit. Voilà.
Merci, professeur Alphonse Maïndo. Monseigneur Donatien Cholet, vous exhortez la justice congolaise au respect des droits des justiciables, des procédures qui réglementent les arrestations. Ceci pourrait, selon vous, participer au processus de désengorgement des prisons.
Oui, bon, je crois que à ce propos-là, moi, je m'aligne au ministre de la Justice, et qui d'ailleurs, pour revenir à la situation de Makala, lui parle du sabotage. C'est l'État qui parle, ce n'est pas l'Église. Permettez, madame, juste quelques précisions avant d'atterrir là. Les évêques ne rappellent que le sens, le respect de la vie. Les évêques ne s'adressent pas seulement, vous avez lu le message, c'est dommage si le conseiller n'a pas lu. Il y a une recommandation qui est faite aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté qui doivent promouvoir la culture de
la non-violence de la vie, éviter, et du respect de la vie humaine. Violence,
parce que vous constatez, quand il y a accident, quelqu'un même, pas de mauvaise foi, tamponne un autre, la réaction c'est brûler le véhicule, le lyncher, tuer. Vous voyez qu'on attrape un volet, donc ça devient une culture. Et l'Église, je suis d'accord avec le professeur, l'Église a sa part, mais combien de... Je crois qu'il ne connaît pas l'Église catholique. Il sait, s'il connaissait l'Église catholique, il devrait savoir ce que l'Église catholique donne comme moyen pour encadrer la jeunesse, même les Kuluna, les Chege. Mais il y a beaucoup de structures d'Église qui encadrent les Chege. L'éducation, il y a beaucoup de jeunes catholiques de Bilenga Mwinda, les Kizitanwarite, et qui sont encadrés, ce ne sont pas ceux-là qui sont dans la rue. Et donc, je crois que l'Église catholique est consciente de sa responsabilité et fait sa part. Alors, pour revenir à votre question, la justice a aussi sa part de responsabilité, comme le ministre de la Justice lui-même l'a dit. Donc, il faudra quand même des mesures réalistes par rapport à ce que nous vivons au quotidien. Une prison qui ne peut prendre que 1500 personnes, ils sont là plus de 20 000. Vous ajoutez encore d'autres personnes à ces conditions-là. Qu'est-ce que nous ne peut pas conclure? Merci beaucoup.
Alors, vous demandez aussi, ça sera votre conclusion, des poursuites judiciaires à l'endroit des auteurs d'actes des violations des droits humains sur l'ensemble du territoire national et les déférer devant leur juge naturel.
Oui, ça c'est vraiment, les évêques sont revenus là-dessus plusieurs fois et il s'agit des enquêtes sérieuses, des enquêtes qui aboutissent et pas des gens, nous avons vécu ici à on a vécu, vous avez suivi à Lubumbashi, il y avait deux fractions de je ne sais quel parti politique qui sont allées se battre dans l'église. Là, un jugement, juste trois personnes interpellées, sans chercher même leur commanditaire. Et on ne sera pas étonné d'apprendre que deux mois après, trois mois après, ces gens sont libérés. Ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Donc, les enquêtes sérieuses sont rares dans beaucoup de cas, même des cas emblématiques au niveau national. Mais, chers conseillers, soyez rassurés, et si vous suivez régulièrement la CENCO, à chaque fois qu'il y a un drame, même si c'est un drame naturel, les évêques écrivent pour compatir sans accuser qui que ce soit. Donc là, nous sommes devant des cas bien précis et bien défendables.
Merci. Merci, Monseigneur Chollet. Monsieur le conseiller, vous allez conclure aussi. Des enquêtes indépendantes, sérieuses, c'est tout le monde qui demande cela.
Oui, madame, c'est tout le monde qui demande cela. Et nous sommes les seuls à bien le faire. Madame, nous chutons presque de la même façon avec le professeur Maïdo et M. l'abbé Chollet sur les propositions. Ça, c'est la partie un peu plus constructive de leur déclaration. Mais tous les débuts, c'est vraiment spécieux. C'est une déclaration spécieuse, on sait qu'elle a des apparences vraies, mais le fond, ce sont des diatribes. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Même lorsque le professeur dit il faut réformer l'État, ça c'est la théorie que nous avons déjà entendue. Mais une fois aux affaires, nous allons voir que le professeur va peiner à donner la théorie et la praxis de la réformation de cet État-là. L'Église catholique, dans son rôle, bon, l'Église c'est trop dire, mais la SENCO, qui est une structure de l'Église, dans son rôle d'accusation, doit mettre un peu plus de bémol, parce que, vous savez, c'est facile de pointer les autres du doigt, mais une fois on vous met là-bas, Monseigneur dit, nous encadrons les jeunes. Mais ce que j'ai vu est déplorable. Le Saint-Père est arrivé, il était au stade Ndolo là-bas, après la messe. Le Saint-Père est parti. On a pillé les chaises. Monseigneur doit se dire qu'il y a un problème dans l'homme congolais. Et ce problème, nous devons le résoudre ensemble. Ce n'est pas en venant accuser les autres. Il y a un problème dans les fidèles. On vole les téléphones même dans l'église. Et ça, l'État est irresponsable parce qu'il doit envoyer les policiers dans l'église. Le mal est profond parce que le mal s'appelle l'homme congolais. L'homme congolais, ce n'est pas seulement le Kuluna, c'est tout le monde. C'est l'homme politique, c'est l'homme professeur, c'est l'homme élève, c'est le Kuluna lui-même. Bref, notre société constituée de ce Congolais-là doit être formatée. Et si nous raisonnons de cette façon, chacun, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, nous pouvons apporter ensemble la pierre de l'édification et de la construction de l'homme congolais.
Professeur Maindo.
Oui, je pense qu'il y a, par rapport à cette question précise, je pense qu'il y a, on peut se référer à juste titre à Foucault, hein, surveiller et punir. Et donc, il montre bien comment l'institution carcérale exerce le pouvoir disciplinaire de contrôle des corps et des gens qui sont là-bas. Et c'est une institution qui est quasi militaire. Et donc, c'est ça qu'on doit apprendre, pour que les prisons deviennent effectivement des lieux où l'on éduque les gens, on les redresse et on assure l'ordre et la sécurité. Mais quand on voit ce qui se passe, les gens dans la prison, ils ont des téléphones, ils ont ci, tout ça, ils communiquent avec le monde extérieur comme s'ils vivaient à l'extérieur. Et donc avec ça, c'est facile d'organiser des évasions et autres. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait véritablement une discipline dans l'institution carcérale. Et ça, c'est encore une fois, hein, c'est de la responsabilité de l'État. Et je répète, il ne faut pas que l'État se dédouane. Et dans tous les autres pays, quand on parle de réforme de l'État, la réforme de l'État suppose qu'on puisse avoir un leadership. Et quand c'est ce qu'on voit dans les autres pays, on voit par exemple ce qui s'est passé au Ghana avec Johnny Rawlings. Il a recadré, il a redressé les pays et tout le monde se remet au travail. Je ne peux pas citer d'autres pays voisins, mais c'est le travail que l'homme, celui qui a le leadership, qui doit assumer. On ne peut pas dire responsabilité générale. Il y a quand même des gens qui ont les affaires publiques en charge. C'est d'abord à eux qu'on doit demander des comptes avant de les demander aux profs, ou à l'évêque, ou à une mère, ou à un père de famille.
Merci, professeur Alphonse Maindo. Merci également à ces nombreux auditeurs qui nous ont suivis de partout, également à ces nombreux internautes qui nous suivent de partout. Ricard Manza, Likasi, dans la province du Katanga, Alexandre Poutine, aussi à Likasi, Moses Kassai, depuis Kassai Lougoutou, voilà, depuis Boutembo, dans la province du Nord Kivu. Merci également à Monsieur Deyrout Irung qui nous suit depuis la Zambie, Patrick Chimona. Merci beaucoup. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.